Moi, je sais qu'en ce qui me concerne, en tout cas, ça a été très violent pour moi pendant longtemps, de me sentir en marge, de me sentir chelou, tu vois, de demander si c'était bizarre, si c'était fou même, tu vois. Donc, je crois que l'envie la plus forte que j'avais, c'était de pouvoir faire comprendre à des gens qui sont pas tout seuls dans ce truc-là, en fait. Voilà. Je crois que j'aurais aimé qu'on me le dise à un moment, que ça m'aurait fait du bien, que ça m'aurait apporté quelque chose, si on me l'avait dit plus tôt. Quand on me l'a dit, ça m'a apporté quelque chose, ça m'a apporté une sorte de réconfort, même si ça n'a pas effacé la merde pour autant, tu vois. Et je crois que du coup, je crois que c'est pour ça que j'en parle.
Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode d'audio. Après une longue attente, on est très heureux de recevoir Esquisse dans ce nouvel épisode. Quoi de neuf, jeune H?
Yo yo les gars, ça va ou quoi?
Ouais, ça va à fond, on est très content de te recevoir.
Merci beaucoup, merci de m'inviter, très content d'être là.
Pour retracer ton parcours, tu as fait partie de différentes formations, No Star, 5 majeurs, Hors de Portée, puis dans le sillage de Fixed Pencil pendant des années. Ça, c'est en ce qui concerne la première moitié des années 2010.
Ouais.
Ensuite, on te voit tracer un chemin en solo. Tu as été invité à collaborer avec Alchemist, avec Jazzy Baz aussi sur Memento. Et puis, tu as surtout sorti le EP JJ Aline en 2017, qui sera assez déterminant pour la suite. Après un nouveau projet carte de visite Hola, sorti l'année dernière en 2022, tu envoies ton premier long format qui s'appelle Plot Twist.
C'est exact.
À l'issue d'un parcours qui est assez long, qui est plein de péripéties, de zones de relief, 10 ans après 5 mages et moins d'une semaine avant la sortie de ton premier solo, comment est-ce que tu te sens?
Waouh. Je me sens bien, je me sens pressé, j'ai hyper hâte que le projet sorte. Ça fait longtemps que je travaille sur Plot Twist. J'avais sorti Hola pour faire patienter les gens en attendant, parce que Plot Twist m'a pris plus de temps que ce que je pensais. C'est un projet que je voulais vraiment construire sur la durée, tu vois. Donc, comment je me sens? Je dirais excité. J'ai hyper hâte de voir comment ça va être accueilli par les gens, en fait.
Dans Plot Twist, il y a quelques interludes qui sont super intéressantes, dont une qui est un message que tu laisses sur une boîte vocale à l'issue de la création du projet. Tu viens quasiment de terminer l'enregistrement, les mix.
Yeah.
Et il y a une phrase qui ressort beaucoup de cette interlude, c'est « on revient de loin ». Est-ce que tu peux nous aider à comprendre d'où est-ce que tu reviens au juste, par quelles étapes tu es passé et surtout, qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui?
Ok. Bah, en fait, c'est un peu, je crois, le sujet de fond du projet. Moi, en 2000, enfin, même si on doit commencer avant ça, j'ai toujours été plutôt torturé, tu vois. Depuis que je suis gamin, j'ai commencé à avoir des psys assez jeunes. Je suis HP, hypersensible et anxieux chronique. Donc, disons, ça a toujours été des trucs que j'ai dû apprendre à gérer assez jeune. 2018, pour plein de raisons, en fait, après la sortie de JJ Aline, j'ai fait une énorme dépression. Un truc assez violent. Et en fait, Plot Twist, c'est un projet qui raconte cette histoire-là, qui raconte l'histoire d'un mec qui touche le fond, qui s'en rend compte et qui décide de faire le travail pour s'accepter lui-même dans le but de transformer ses faiblesses en super-pouvoirs, en fait. Voilà. Clairement, Plot Twist, pour moi, c'est ça que ça raconte. Donc, c'est de là que je viens, c'est ça que le projet raconte. C'est un projet que j'ai fait sur 3 ans. Le moment où j'ai commencé à écrire ce projet, du coup, bah, c'était le point de départ, à savoir, c'était le point de chute. J'étais dans un état de dépresse ultime. J'ai arrêté la musique pendant 1 an et demi, en fait, fin 2017. Il y a eu des événements qui ont été un peu compliqués pour moi. Du coup, j'ai marqué une pause. Et voilà, c'est de ça dont je reviens. Et Plot Twist, c'est un projet qui parle justement de ce cheminement-là, en fait.
Plot Twist, pour les non-anglophones ou pour les non-cinéphiles, c'est un changement soudain dans une intrigue, une révélation qui va changer la perspective du récit. Dans ton cas, du coup, ça veut dire quoi exactement? Est-ce que c'est l'espoir de peut-être avoir un revirement dans ta propre histoire, montrer ton évolution? Est-ce qu'il faut s'attendre aussi peut-être à un changement total de perspective?
C'était un peu tout. Je pense que déjà, je voulais appeler ça comme ça parce que je pense qu'il y a quelque chose d'assez... Enfin, l'histoire que je raconte dans le projet, elle est super personnelle, mais je pense qu'elle est hyper universelle aussi. Je pense que le fait de se sentir down, d'avoir la sensation de toucher le fond ou de se sentir mal, c'est un truc ultra universel. Et ce que je voulais communiquer, c'était un... J'avais envie de donner de la force, en fait, à tous ceux qui se sont sentis... Tous ceux qui se sont sentis lésés, tous ceux qui se sont sentis en marge, tous ceux qui ont eu l'impression que leur film était fini, tu vois. Parce que, en fait, c'est ça, une fois de plus, c'est ça que le projet raconte.
Tu parles de film qui est terminé, tu parles de super-pouvoirs, on sent qu'il y a une grosse influence dans le monde de la fiction.
Ouais, je regarde énormément de films, je regarde énormément de movies, mais en fait, je sais pas, je trouve que même c'est une image, tu vois, l'idée de devenir le personnage principal de ton film. Je pense que tu peux regarder ta vie comme un spectateur pendant longtemps, ce qui a été mon cas pendant très longtemps. Et il y a un moment où tu peux décider de reprendre le contrôle sur les choses, et c'est pour ça Plot Twist, en fait. J'avais envie de communiquer ce truc de tu peux toujours reprendre le contrôle sur les événements. C'est hyper cliché hein, de dire ça, mais même quand tout te paraît fucked up et quand tu penses que c'est la fin du movie, que c'est la fin de l'histoire, tu peux créer ce revirement de situation et renverser la vapeur, tu vois.
Je pense que ça dit quelque chose aussi sur ta démarche en tant qu'artiste solo. Toi, tu as connu le phénomène de groupe pendant longtemps. Grave. Et il a fallu, à partir de 2017, que tu commences à prendre en main une carrière seule.
Ouais.
T'es passé par plein d'étapes. On est aussi dans une époque où, musicalement, générer de la visibilité tout seul, c'est pas la même chose qu'en groupe. Comment est-ce que tu t'es projeté dans cette démarche-là? Est-ce qu'il y a des stratégies que tu as dû mettre en place? Est-ce qu'il y a des choses qui ont mieux fonctionné que d'autres?
Honnêtement, C'est pas forcément que je suis très nul en stratégie, mais c'est que j'avoue que j'ai pas du tout ces gamberges-là quand j'écris. Quand je me suis mis à faire de la musique tout seul, je savais pas vraiment où est-ce que je voulais que ça tende. J'ai fait de la musique, j'ai multiplié les morceaux jusqu'au moment où un jour j'ai rencontré Sheldon. On a fait le track Gigi Allin, qui a été un track qui a été hyper déterminant pour moi. Parce qu'à partir de ce morceau-là, j'ai su où je voulais aller musicalement. J'étais déjà, moi en fait, pour être concret, j'ai énormément écouté de rap à 80-90 BPM. Une bonne partie de ma vie, c'est là-dessus que j'ai le plus rappé. Et en même temps, je me suis mis à partir de 2010 à écouter des trucs hyper différents. L'envie que j'ai eue, du coup, ça a été très rapidement en fait de faire un pont, de créer un pont entre ce rap, entre guillemets, à l'ancienne, à 80-90 BPM, et des trucs complètement différent que j'écoute. Enfin, je pourrais citer une flopée d'artistes, ce serait infini, mais je sais qu'à l'époque, des trucs comme Young Lean, Young Gud et tous les mecs qu'il y avait autour, ça m'a beaucoup frappé. Et je voulais trouver un moyen, en fait, de réunir un peu ces deux mondes-là. Et voilà, c'est ce que j'ai commencé à faire avec Sheldon en 2017. À l'époque, les gens parlaient de boom trap un peu, genre du rap qui sonne, enfin, avec des flows 90 BPM, mais où les prods sonnent pas comme les classiques boom bap qu'on a l'habitude d'entendre. Donc voilà, le but, c'était de... La démarche, en tout cas pour moi, elle a toujours été là, de faire le pont un petit peu entre l'ancien et le nouveau.
J.J. Allin, c'est le premier jalon de cette démarche-là. Puis il y a Ola aussi, qui représente hyper bien cette espèce de double personnalité qu'il y a artistiquement chez toi. On sent que c'est un jalon, ce projet-là, en 2022. T'en as encore sous la semelle. Il y a beaucoup de morceaux qui ont dû être enregistrés. Il a fallu en choisir quelques-uns. Et parmi ces quelques morceaux, il y en a certains qui ont un esprit très années 2000 dans les productions et d'autres qui sont dans une imagerie beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus expérimentale. Comment est-ce que tu as fait les choix de ces morceaux? Il y avait aussi la volonté de faire une carte de visite, donc tu voulais peut-être essayer de montrer un petit peu le panel de ce que tu es capable de faire.
Sur Ola, tu veux dire?
Ouais,
sur Ola, en fait... Ola, je sais pas comment expliquer. Je pense que il y a eu un côté complètement spontané, si je suis honnête. En fait, sur ce projet, il y a eu très peu de calculs, mais j'avais un petit peu une idée en tête. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai bossé ce projet, j'avais déjà une bonne partie du projet Plot Twist d'enregistrer. Le projet n'est pas encore sorti, mais au moment où ce podcast sortira, ce sera sûrement déjà dispo. Plot Twist, c'est un truc où je voulais vraiment aller chercher des sonorités nouvelles. Et du coup, j'ai profité de Ola un peu comme une récré, déjà. Je voulais faire quelque chose de beaucoup plus spontané, de beaucoup moins calculé, de beaucoup moins réfléchi. Donc du coup, je suis parti à l'instinct sur le terrain que je maîtrise le mieux et sur lequel je m'amuse le plus, à savoir ce délire un peu boom bap, no beat, les prods un peu façon Griselda, tout ça, tu vois.
Façon Rock Marciano aussi.
Exactement, les Rock Marciano, les Retch, tous ces trucs-là, tu vois. Et du coup, bah, en plus, je suis bien entouré pour ça. SO Just Music Beats, mon frérot Chris, avec qui je suis étroitement en lien, on s'envoie très souvent des trucs. Et voilà, on avait déjà collab ensemble, j'avais deux prods de Chris, en fait, qui traînaient dans mon ordi. J'avais quelques samples à droite, à gauche, et à un moment, j'ai juste décidé de m'enfermer pendant une semaine. J'avais prévenu mon manager, Rav, je lui avais dit, écoute, vu que Plot Twist met du temps à sortir, qu'il va pas sortir à la date à laquelle je voulais au départ, je te propose, je m'enferme pendant une semaine, je fais des sons, quoi qu'il arrive, je les garde et on les sort. Et on fait un 4 titres et on le sort comme ça. Donc voilà, la démarche de Ola, c'était ça. Et je trouvais ça intéressant de donner un point de départ sur un terrain justement plus rap tradi, entre gros guillemets. Je trouvais que c'était intéressant comme point de départ pour faire ensuite évoluer Esquisse par la suite, tu vois. et pouvoir surprendre les gens, parce que moi perso, c'est ce que je kiffe en tant qu'auditeur, me prendre une claque d'un artiste et que le projet d'après m'amène ailleurs, pas là où j'attends. Voilà, c'était ça aussi l'effet que je voulais produire. Donc peut-être ça va en déstabiliser certains, peut-être qu'il y a des gens qui vont venir sur Plot Twist en espérant trouver les sonorités de Ola, ils les trouveront pas au niveau des instrus, par contre au niveau du rap, pour moi c'est complètement la suite logique, en beaucoup plus poussé en fait, voilà.
Depuis Ola, Plot Twist et même JJ Aline, on sent que tu te poses beaucoup de questions sur la recherche vocale, la recherche instrumentale, les jeux de placement, les jeux de traitement. Tu consacres beaucoup de créativité sur ces questions-là. Qu'est-ce qui t'inspire à faire ça? D'où ça te vient et quelle place ça prend dans la création pour toi?
Je pense que c'est une place que je calcule même pas vraiment. J'ai fait partie d'une école de rap où on a accordé beaucoup de place à ça. Pendant des années, j'étais beaucoup avec 5 Majeur, Fix Pencil. Nous, c'était la religion des gars quand je les ai rejoints, ce truc de rap technique élaboré, de placement, de machin. Donc je pense que pendant quelques années déjà, t'apprends à développer ton propre style, tes propres placements, en t'inspirant de ceux de tes potes et des artistes que tu kiffes. Petit à petit, t'apprends à te les approprier. Je pense que ce taf d'appropriation, de toute façon, il est jamais vraiment terminé en tant qu'artiste. Je pense que t'apprends de plus en plus à te nourrir de tes influences en t'en détachant. Ce qui peut paraître un peu contradictoire, mais j'ai l'impression que c'est souvent un équilibre à ce niveau-là. Du coup, après, je pense que plus t'arrives à trouver ton délire et plus tu peux le creuser, l'exploiter. Moi, c'est mon cas. Avant, je faisais peu de musique. Là, depuis 2 ans, j'en fais beaucoup plus. Enfin, depuis 2-3 ans, j'en fais beaucoup plus. Donc, c'est à chaque fois l'occasion de tester. Pareil, avant, je maquettais très peu. Tu vois, j'allais vraiment en studio quand j'étais sûr de mon track et que j'allais le garder, que ça allait être définitif. Du coup, je restais peut-être plus dans des zones de confort sans m'en rendre compte. Là, à l'inverse, j'ai passé les 3 dernières années à enregistrer beaucoup de morceaux que j'ai jetés, mais qui servent jamais à rien. À chaque fois, c'est des tests, c'est des prises de température. Ça te permet de capter que je l'ai jamais trop fait, j'aimerais bien le faire un peu plus. Ça, j'aimerais peut-être le faire un peu moins. C'est la première fois de ma vie, en tout cas, depuis 2-3 ans, que je jette des tracks. Et je pense que c'est ce qui se passe quand t'expérimentes des trucs. Alors ça a des effets bizarres des fois, parce que quand t'es habitué à rapper sur tes zones de confort, t'es habitué aussi à quand c'est chaud, tu le sens direct. Quand tu testes des trucs nouveaux, il y a des moments où c'est hyper zarbi, t'écris le truc, t'as l'impression que ce que t'as fait est super chaud, tu le réécoutes, t'es en mode waouh, on n'y est pas encore, tu vois. Mais cette phase de test et d'expérimentation, du coup, elle est hyper intéressante, parce que là, sur Plot Twist, c'est que typiquement, il y a des tracks que j'aurais jamais fait 2 ans en arrière. Il y a des placements vocaux que j'aurais jamais tenté. Et puis je pense aussi que tout simplement, avec les années qui passent, tu sais, moi j'écoute énormément de musique, j'écoute vraiment plein de trucs, je me laisse influencer par plein de choses, et je trouve ça cool, j'ai aucun malaise avec ça, avec le fait de moderniser mon shit ou l'actualiser ou rajouter des nouveaux trucs dedans. J'ai aucun mal à écouter des nouveaux artistes, à trouver ça chaud, à me nourrir de quelques trucs là-dedans et à les mettre dans ma sauce à moi, tu vois. Donc je pense qu'en fait, de toute façon, c'est jamais terminé, tu vois. Je pense qu'un bon artiste, même si j'ai pas spécialement la prétention de l'être, mais en tout cas une démarche artistique riche, je pense que c'est se renouveler. Et voilà, flemme de sortir le même rap que celui que je faisais il y a 5 ans, tu vois.
Elle est où la frontière pour toi entre les zones d'exploration qui vont être concluantes et que tu vas garder sur l'album, sur Plot Twist, et celles qui vont passer à la trappe?
Putain, c'est super subjectif. C'est super subjectif. Généralement, en vrai, déjà, je me fie à mon équipe, aux gens qui sont autour de moi, avec qui je fais de la musique. Il y en a peu, j'ai une équipe assez réduite. Mais Jux, qui est tout le temps avec moi, qui est mon ingé son, que je big up très fort... déjà, son avis compte toujours beaucoup, tu vois, quand on est souvent... souvent, les sessions rec, on les fait ensemble. Donc déjà, je suis souvent attentif à ce que lui va me dire. Mais si je suis honnête, la finalité, elle reste quand même très égoïste. C'est moi, j'ai besoin, moi, d'être convaincu par le truc. Si je le suis, let's go, j'y vais. Tant que je suis pas convaincu à 200%, là, par contre, c'est autre chose. Donc je saurais pas dire vraiment où est-ce que tu places le curseur. Je pense qu'il y a des périodes où tu découvres des nouveaux trucs que tu as envie d'incorporer dans ta zik et qu'il y a forcément des phases de crash test, des phases d'expérimentation. Et je pense qu'avec le son, il y a un truc de... Tu sais, c'est comme avec l'humour, quand c'est drôle, c'est drôle.
Ouais,
tu vois,
ça s'explique pas.
Voilà, avec la musique, c'est un peu pareil. Quand ça marche, tu vas voir toutes les têtes bouger dans le studio, il se passe un truc, t'es pas capable d'expliquer pourquoi. Des fois, tu crois que c'est ton truc le plus technique qui va faire le plus accrocher les gens et que tel truc... qui est un peu plus novateur, où t'es moins sur tes zones de confort, peut-être que ça va pas marcher. En fait, t'en sais rien, c'est aussi quand tu vois les réactions des gens. Donc il y a les deux, il y a un équilibre un peu bizarre entre à la fois faut toi t'écouter toi et réussir à aller au bout de ton truc, ce qui n'est pas forcément facile quand tu testes des trucs et que les gens sont pas habitués à ça. Et à la fois, voilà, j'essaye d'avoir aussi un œil sur une oreille sur mes proches, tu vois.
On sent que ce projet, c'est un aboutissement formel pour toi. Ça semble être la forme la plus aboutie que ta musique ait pu se prendre jusqu'à présent. Est-ce que tu l'as conçue comme ça? Est-ce que tu l'as appréhendée comme ça?
Yes, carrément. Pour moi, c'est... pour le moment, c'est le meilleur projet que j'ai sorti. J'ai passé beaucoup de temps sur le projet. Je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose même qui peut paraître un peu ouf, tu vois, de passer plusieurs années sur un G-Pro. Après, je l'ai vu, ce truc-là, moi, je l'ai toujours vu comme une pièce, comme presque une espèce de toile que je voulais présenter. Et quitte à bosser dessus comme un espèce de savant fou jusqu'à ce que ce soit exactement le truc que je veux, je pense que se trouver, ça prend du temps. Trouver son propre shit, son propre son. J'avais peut-être cette impression au moment où j'ai fait Gigi Allin. Je pense que c'est d'autant plus réellement le cas maintenant. Il m'a fallu du temps un peu pour m'en rendre compte. Comme je disais tout à l'heure, je pense que se détacher de ses influences et vraiment les digérer, c'est un taf qui prend du temps. Après, bah, est-ce que je suis à mon prime sur ce projet-là? Moi, c'est la sensation que j'ai. Maintenant, c'est surtout les gens qui vont devoir le dire. Est-ce que eux vont avoir la même sensation que moi? Mais en tout cas, ouais, c'est un aboutissement pour moi. Il y a un track sur le projet. Quand j'ai écouté Printemps, la première fois que j'ai entendu la version finale de Printemps, je crois que c'est la première fois de ma life que j'ai été autant ému, tu vois, sur un de mes propres morceaux. Il y a eu un moment, enfin, c'est cheesy à balle de dire ça, mais il y a eu un moment où dans ma tête, en fait, je me suis dit, ça y est, je suis devenu le rappeur que je rêvais d'être quand j'étais petit. Juste en termes de rap, de musique, tu vois. Et ça m'a fait un vrai frisson, ça m'a fait un vrai truc de me dire, waouh. Tu vois, genre, je peux cocher cette case-là et me dire que le rappeur que je rêvais d'être quand j'étais gamin, musicalement, en termes juste de musique, je parle, hein, ça, c'est bon. Et ça, c'est lourd de fou. Après, je te mens pas, maintenant que j'ai coché cette case-là, il y en a plein d'autres que j'ai envie de cocher. Il y a plein d'autres trucs vers lesquels j'aimerais aller. Tu sais, je vois ça un peu comme... la musique, je trouve, c'est un peu une espèce de truc de jeu vidéo où, genre, tu sais, tu te fixes des paliers, des steps, et genre, c'est comme débloquer un niveau, et à chaque fois que t'as réussi à atteindre le truc que tu voulais, en fait, il y a toujours un autre niveau au-dessus et toujours un autre truc que t'aimerais faire. Donc là, en termes de rap pur, ouais, moi, je crois que je suis devenu mon rappeur préf, donc ce qui est assez fantastique de pouvoir dire ça. Par contre, vas-y, j'aimerais chanter plus. Il y a plein de gars qui font des trucs où je les trouve beaucoup plus forts que moi, et du coup, je suis en mode, ok, j'ai envie d'apprendre à faire ça aussi, tu vois. Je pense que maintenant, une fois que le truc sera out, qu'il m'appartiendra plus, que le projet sera vraiment dans les mains des gens, je pense que petit à petit, bah, je vais pouvoir m'en détacher et passer à d'autres goals, d'autres objectifs, atteindre d'autres trucs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai encore envie de faire évoluer le truc. Je vois pas ça comme une forme finale, tu vois. Enfin, je pense que de toute façon, c'est jamais fini. Et comme on se disait tout à l'heure, avant que l'émission démarre, la plupart des artistes qu'on kiffe, c'est des mecs, justement, qui arrivent à se renouveler de projet en projet, même quand t'as l'impression que le mec a atteint son niveau ultime. Et c'est ça qui est stylé, je pense, le plus dans la musique. Enfin, c'est mon avis, en tout cas.
C'est ton premier long format, toi tu viens aussi de la dynamique du groupe. Comment est-ce qu'on passe d'être un rappeur, d'être un bon rappeur, à devenir quelqu'un d'intéressant à écouter sur 45 minutes et plus?
Waouh, c'est une super bonne question. Moi je suis pas très doué pour intellectualiser ce truc-là. Je crois qu'une fois de plus, je fais pas mal de morceaux. Après je m'en remets un peu aux gens qui sont autour de moi pour me driver, voir qu'est-ce qu'on met le plus en avant, qu'est-ce qui est le plus intéressant, qu'est-ce qui l'est moins. Je saurais difficilement répondre à ça, en vrai.
T'as quand même, j'imagine, changé de perspective pour ce projet, puisque là, pour le coup, tu passes de 4 à 13 morceaux, si je dis pas de bêtises.
12 avec les interludes, ouais.
Du coup, j'imagine qu'il y a toute une réflexion aussi que t'as dû mener sur comment est-ce que bah, t'amènes à attirer l'attention de l'auditeur.
Yes, ok, je capte. Ça, après la construction du projet, c'est un truc... Moi, quand j'ai commencé ce projet, je crois que la manière dont je bosse, c'est souvent un peu comme si je tirais une corde. C'est-à-dire que j'ai jamais de vision vraiment sur le long terme, mais une fois que j'ai chopé un truc et que je commence à tirer, le reste vient, tu vois. C'est souvent comme ça que j'écris. J'ai rarement, tu vois, une idée précise de là où je vais aller au début du track. Et la construction des projets, c'est souvent un peu pareil pour moi. Là, par exemple, les premiers morceaux que j'ai rec, c'était Progrès, Dans les cordes, Damn, et chœur. Et à partir de ces morceaux-là que j'ai fait avec Yepes et Plekhazy, qui sont mes deux frérots de Bordeaux, c'est eux qui m'ont remis dans la musique, en fait, justement, après la phase de vide que j'ai évoquée au début de l'émission. À partir de là, déjà, tu vois, il y avait quelque chose qui était posé. Il y avait quatre morceaux, qui étaient pour moi quand même quatre morceaux assez forts dans ce que ça racontait. Pour moi, ça se rejoignait complètement. Et donc, je me suis dit, OK, on va partir de ça et essayer de construire un projet autour. C'est surtout comme ça que ça s'est fait, en fait, en vrai.
Il y a aussi tout un mythe de création autour du format album. Est-ce que tu t'es mise une pression particulière pour aborder ce truc-là? Il y a aussi le mythe du premier album qui est encore autre chose.
Bah, c'est marrant parce que justement, j'en parlais avec mon manager Raph au téléphone juste avant de venir ici. En fait, j'ai osé appeler ce projet un album il y a seulement 2 jours, alors que ça fait des années que je travaille dessus.
Bah, tu vois, c'est la question que je me posais parce que quand tu m'as envoyé le lien, il y a marqué LP.
En fait, c'est quoi? Je pense qu'il y a une espèce de schizophrénie chez les artistes à ce sujet-là, dans le sens où... un album, l'industrie a fait de l'album un espèce de graal un peu, genre, et là, je pense qu'on est plein d'artistes à faire de la musique, à avoir envie d'appeler ça un album, sauf qu'on se dit, ah, j'ai pas encore assez d'exposition, l'album, faut que ce soit le gros truc, quand toutes les étoiles seront alignées, et là, j'appellerai ça mon premier album. Mais en fait, tu vois, pendant des mois, on parlait de projet, on parlait de LP, quand on bossait sur Plot Twist, j'osais pas trop mettre de nom dessus. Et il y a 2 jours, j'ai dû faire un post Instagram pour présenter le projet. Et en fait, quand j'ai dû le décrire, je me suis dit, mais enfin, comment tu veux que j'appelle ça autrement qu'un album? C'est un 12 tracks qui raconte une histoire hyper personnelle. J'ai créé ça comme un film. Je l'ai créé sur plusieurs années parce que je voulais qu'il y ait un cheminement, un début, un milieu, une fin. Il y a mes tripes dedans. Genre, si ça, c'est pas un album, je sais pas ce qu'est un album, tu vois. Et j'avais déjà une gamberge là-dessus, et il y a quelques jours, je me suis retrouvé en studio avec Loud, et justement, et Adjust. Grand moment pour moi.
Grosse influence pour toi.
Immense influence pour moi, sûrement la plus grosse influence. Eux-mêmes le savent, les vrais savent aussi. Et à un moment, ouais, quand je leur ai fait écouter le projet, je leur ai fait écouter Plot Twist, et c'était quelque chose d'important de fou, tu vois. Et en fait, les gars ont adoré le projet, et Loud, direct, m'a dit, mais en fait, c'est un album. C'est un album ce que t'as fait. Et c'est la première fois que quelqu'un me l'a dit sans me poser la question, tu vois. Juste, il m'a posé ça là. Et en fait, ça m'a semblé évident. Ça m'a semblé évident aussi bien par rapport au thème des morceaux que la construction du truc, que ce que je raconte dedans. Enfin, ouais, c'est un album. Après, je pense que je te dis, on a souvent peur d'appeler un chat parce que les règles de l'industrie font que tu te dis, merde, si j'appelle ça un album, faut que ça ait une sacrée exposition. Sinon, peut-être on devrait appeler ça un EP. Tu sais, les artistes sont souvent un peu sur la pointe des pieds. Je sais même pas pourquoi on a peur d'appeler un album quand c'est le cas. Moi, je pense que voilà, tout dépend de l'importance du truc et les tripes que t'as mis dedans. Si j'avais sorti un projet de 5-6 titres, j'aurais appelé ça un EP. Là, il y en avait 9, plus 3 interludes. Ouais, vas-y, pour moi, c'est un album. En tout cas, je pense qu'il y a un moment, faut assumer les trucs, tu vois. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps sur ce G-Pro. Comme je te disais, je le vois un peu comme un... à la fois comme un film, et à la fois comme un docu, même, sur une partie de ma vie. Donc, ouais, à partir du
biopic,
moment...
quoi.
Ouais, ouais, c'est ça. C'est un biopic à fond. De toute façon, il y a plein de références au film, enfin, au cinéma, dans le projet. Donc, ouais, pour moi, c'est clairement un album.
Je reviens sur la dynamique de création. Les gens qui te suivent sur les réseaux depuis quelques années peuvent savoir que tu as peut-être trouvé une version stable de Fruity Loops.
Let's go, let's go, let's go.
Parce que tu t'es mis à produire, en fait, il y a quelques années.
Ouais, je me suis mis à produire, ouais.
Qu'est-ce que ça a t'apporté dans ta dynamique de création?
Plein de trucs. À l'époque où je produisais pas encore, justement, j'étais une sacrée galère parce que j'avais déjà... En fait, j'ai toujours eu des goûts pointus et difficiles en termes de prod, d'instru. Les beatmakers avec qui je travaillais à l'époque s'arrachaient les cheveux avec moi. S.O. Sheldon, qui m'a maudit un nombre de fois incalculable. C'est que du love. Et ouais, en fait, je sais pas, je crois que c'est en 2019, avec mon frérot Ben, avec qui on est tout le temps ensemble, c'est mon meilleur pote, c'est mon voisin aussi, donc c'est presque mon coloc, tu vois. On passe toutes nos soirées ensemble à l'époque, et on écoute énormément de musique. Et vas-y, un jour, je lui dis, viens mec, tu sais quoi, viens, on se télécharge une version d'Eiffel. Il y en a marre de voir des gamins de 15 ans qui font des trucs incroyables. S'ils peuvent le faire, on peut le faire aussi, tu vois ce que je veux dire? C'est parti de là un peu. Et moi, dans ma tête, j'avais ce truc de me dire, mine de rien, ça pourrait m'aider à avancer, vu que niveau prod... Après DJ Aline, en fait, j'ai pas réussi à enchaîner à cause de ça aussi. On était dans l'ère de la trap, je recevais beaucoup de trucs à 130 BPM. C'était ultra influencé par ça. Et moi, je voulais pas aller là. Je voulais aller plus sur un truc de boom trap, un peu de rapper à 90 BPM, comme je vous disais, faire des feintes un peu. Mais bref, personne m'envoyait de prod comme ça. Tout le monde était en train de s'éclater sur du 130, 140. Et du coup, je me suis dit, il faut que je m'y mette. Du coup, j'ai réquisitionné mon gars Ben, on a téléchargé FL, on a maté des tutos, on a des potes qui sont venus nous montrer un peu comment ça marche. Moi, petit à petit, j'ai de plus en plus mis les mains sur la machine. Et ça m'a fait kiffer. Et ça m'apporte plein de trucs parce que moi, par exemple, l'écriture, c'était pas quelque chose dans lequel j'étais très régulier avant. Tu vois, il y avait des. C'est comme si l'inspiration, c'était comme une foudre qui me tombe dessus à des moments et je contrôlais pas le truc. J'étais grave dans ce trip d'artiste maudit, tu vois.
Bah, on avait eu des conversations il y a longtemps à ce sujet-là, sur la difficulté d'écrire.
Ouais. Justement, la prod, tu vois, ça a débloqué quelque chose là-dessus parce que autant écrire, ça me demande. Je serais incapable d'expliquer pourquoi, mais il y a des fois où je vais réussir et des fois où je vais pas réussir. Autant l'instru. Je peux toujours partir. Enfin, moi, je sample beaucoup, du coup, dans ma manière de bosser, je sample énormément. Et du coup, à partir de là, enfin, il y aura toujours des idées, en fait. Et quand je vais commencer à me mettre sur une prod, déjà, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait de plus en plus sur les 3-4 dernières années. Et en fait, je sais pas, les jours où j'écris pas, je sais que je vais pouvoir sortir une, deux, trois prods. Et déjà, au départ, ça a commencé à me déculpabiliser, je crois, tout simplement. Tu vois, étant donné que processus créatif, ça peut être difficile, le fait de trouver un moyen que ça glisse. Même d'une autre manière, en vrai, ça fait du bien, tu vois. Et je pense qu'après, bah pareil, le plus tu fais de prod, plus tu vas choper d'autres notions musicales. Ça m'a permis de pas forcément faire des versions finales, mais de maqueter des trucs qui sont devenus des morceaux par la suite.
Ouais, t'as peut-être reprod des morceaux à partir de,
ouais, carrément,
de base que t'avais construit.
C'est ça, c'est ça. Souvent, tu sais, je pars d'une base et après, il y a mon frérot Jux, mon frérot Dusty Goldstein ou des zinzins complètement géniaux comme ça qui repassent derrière et qui en font de la magie. Après, il y a d'autres fois où c'est moi qui fais le truc, genre All Aback avec Jewel, c'est une prod que j'avais fait. Il y a quand même mon frère Zach qui est venu derrière pour rajouter toutes les petites touches incroyables qui font que ça déchire. Mais ouais, non, les prods, c'est un truc, je prends énormément de plaisir à faire ça. Et soit ça débloque l'inspi quand il n'y en a pas, soit ça me permet de mettre de la matière de côté pour bosser mes tracks et aller vraiment au bout de ma vision. Donc ça, c'est hyper
bien. Et j'ai le sentiment aussi que tes débuts en production, c'est aussi le démarrage de tout un nouveau pan esthétique où tu vas aller chercher des prods qui sont un peu plus évolutives, où il va y avoir beaucoup plus de jeux de matière, tous les jeux expérimentaux dont on parlait tout à
complètement.
L'heure.
Complètement. Bah, en fait, comme on se disait, j'ai eu envie de faire ça et j'ai su que c'était ça le type de musique que je voulais faire à partir du track Gigi Allin avec Sheldon. Et quand tu regardes ce track, c'est exactement ça. C'est un track hyper évolutif de 4 minutes, grave texturé, grave aérien et tout. Et vraiment, ce track-là, c'est à partir de ça que j'ai su ce que je voulais faire. Donc ouais, le fait de faire mes prods, en effet, c'est l'occasion d'aller beaucoup plus loin dans la vision que j'ai. Et même quand je bosse avec d'autres beatmakers, là, tu vois, sur le projet, il y a plein de morceaux, c'est pas moi qui ai prod, mais je suis systématiquement là quand on fait les prods. Et le fait de connaître et de comprendre le shit, je peux participer à ce qui se passe, je peux donner mes directives un petit peu.
Tu donnes ton avis sur la snare?
Je donne mon avis sur le snare, je donne mon avis sur le hat, je donne mon avis sur tout, mec, je suis une catastrophe. Je rejoue certains kicks ou certaines lignes de base des fois. Je commence de plus en plus à foutre mon nez là-dedans. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est des vrais collabs en fait. Et quand je bosse avec un compositeur que j'aime bien, c'est des vraies collaborations. C'est pas le mec m'envoie un beat, j'écris dessus et je pose en cabine. C'est on fait le truc ensemble.
Il y a des producteurs en particulier ou des compositeurs, voire même carrément des genres de musique hors hip-hop qui t'ont nourri dans cette démarche-là en particulier?
De fou. Je crois qu'un des trucs, un des courants qui m'a le plus nourri ces dernières années, c'est... Je sais pas, j'ai jamais su comment appeler ce genre, je sais même pas si c'en est un, mais Junglin, Junggud, tout l'entourage de ces Suédois-là, à l'époque, Tara, Spooky Black, Corbin, Bobby Raps, Okelou, il y a quelques années, Sega Bodega, tous ces artistes-là qui sont dans un truc que moi je vais appeler l'héritage un peu trip-hop des années 2010, tu vois. C'est des trucs qui ont rien à voir avec le rap que je fais. Ça m'a énormément nourri. C'est des groupes comme Salem aussi, qui est devenu vraiment un de mes groupes phares. Je me suis replongé beaucoup dans des vieux albums d'Oasis que j'avais adoré à l'époque. Et je crois que, ouais, enfin, tous ces trucs-là, c'est des genres quand même qui ont ce point commun d'être assez évolutifs. J'ai toujours adoré ça. Donc ouais, comme je te disais tout à l'heure, ça rejoint cette envie de faire le pont, en fait, de faire le pont et de lier le rap que je maîtrise à d'autres trucs, tu vois, pour essayer de proposer quelque chose que j'entends par ailleurs.
Un des sujets qui revient le plus sur ce projet, hormis les motifs habituels, c'est ton rapport à la santé mentale.
Ouais.
Quelle importance ça a pour toi de parler de la dépression, des crises d'angoisse, de l'hypersensibilité, etc.
Je pense qu'au moment où je commence à le faire, déjà c'est nécessaire parce que au moment où je commence à écrire Plot Twist, je suis dans une des phases les plus compliquées de ma vie. J'ai fait une énorme dépression. J'avais un rythme de vie absolument catastrophique, enfin, de mauvaises habitudes, tu vois, que je cultivais un peu malgré moi. Et en fait, je sais pas, il y a eu un moment où j'ai eu besoin de, bah, déjà de stopper tout ça. Et de ne pas en parler pendant un temps. Comme je te disais, il y a eu un an où j'ai arrêté de faire de la musique. Et en fait, quand j'ai repris, je sais pas, c'est venu spontanément, je me suis même pas spécialement posé de questions. J'avais besoin de parler de tout ça. Il y avait des plaies qui étaient un peu ouvertes et j'avais besoin d'en parler. Au début, c'était vraiment presque de la survie, je crois. Quand j'ai commencé à bosser sur ce projet, les premiers tracks du G-Pro, des morceaux comme Wayne, comme Dans les cordes, comme Progrès... quand je les écris, c'est vital, en fait. Mais je ne sais même pas vraiment pourquoi je le fais. Après, bah là, tu vois, des années plus tard, je me rends compte que je crois que j'ai toujours fait aussi avec l'espoir que ça puisse parler à des gens, en fait, qui traversent la même chose. Tu vois, ces trucs d'hypersensibilité, etc. Moi, j'ai passé une énorme partie de ma vie à me sentir chelou, à me sentir différent. Moi, on m'a jamais parlé d'hypersensibilité jusqu'à ou de haut potentiel jusqu'à mes 27 ans. Tu vois, c'était des termes dont on parlait pas avant, c'était pas des sujets... je sais même pas si le terme existait, en fait. Vraiment, tu vois, j'ai même vu des psys quand j'étais gosse. Le diagnostic, il m'a été posé par des psys quand j'en avais 27, mais il m'a pas été posé quand j'en avais 12-13. Donc je pense qu'il y a des sujets dont on parle moins selon les époques. C'est un truc qui est revenu à un moment. J'ai vu pas mal de gens aussi autour de moi parler de ça, se sentir concerné par ça. Je me suis rendu compte que j'étais pas seul à vivre ça. Et du coup, je crois que le fait de m'en rendre compte, ça m'a donné d'autant plus envie d'en parler. Je crois que ce qui a été le plus difficile pour moi quand j'ai traversé des périodes de dépression, ça a été justement le fait d'avoir l'impression d'être seul. Je crois que quand t'es un mec, c'est difficile de parler de ces trucs-là. Malheureusement, tu vois, la société nous a un peu construits comme ça. Les modèles qu'on a eus nous ont amenés à ça. On est extrêmement nombreux à passer par des phases qui touchent à la dépression. Et très bizarrement, on s'en parle très peu de gens en parlent, et très bizarrement, quand tu le vis, t'as souvent l'impression, au départ en tout cas, d'être le seul à expérimenter ça. Moi, je sais qu'en ce qui me concerne, en tout cas, ça a été très violent pour moi pendant longtemps, de me sentir en marge, de me sentir chelou, tu vois, de demander si c'était bizarre, si t'es fou même, tu vois. Je crois que l'envie la plus forte que j'avais, c'était de pouvoir faire comprendre à des gens qui sont pas tout seuls dans ce truc-là, en fait. Voilà. Je crois que j'aurais aimé qu'on me le dise à un moment, que ça m'aurait fait du bien, que ça m'aurait apporté quelque chose. Si on me l'avait dit plus tôt, quand on me l'a dit, ça m'a apporté quelque chose, ça m'a apporté une sorte de réconfort, même si ça n'a pas effacé la merde pour autant, tu vois. Et je crois que du coup, je crois que c'est pour ça que j'en parle.
Il y a aussi un genre de check de réalité dans l'album. Il y a un double discours, il y a un esquisse qui porte une ambition démesurée pour sa musique, qu'aimerait la voir exister le plus haut possible, peut-être nourri par des discours de réussite qui peuvent être parfois illusoires. Et d'un autre côté, il y a un esquisse qui aspire à des choses très concrètes, très réelles, qui est dans l'introspection et qui veut parler des vraies choses de la vie. Comment est-ce que tu arrives à concilier ces deux facettes de ta personne ?
Une fois de plus, c'est comme si je tirais une corde quand j'écris. Et je pense que parler de ses démons, parler de là où je veux aller, il y a quelque chose de quand même très premier degré dans ça. J'ai tendance, je pense, à essayer de couper un petit peu ça pour pas que ce soit trop... J'ai pas envie de me prendre trop au sérieux non plus. J'ai envie de parler de choses sérieuses à des moments et d'être capable de l'être. Mais j'ai pas non plus envie d'être... misérabiliste, de faire chialer dans les chaumières, et tout ça, c'est clairement pas le but. Donc je pense que, ouais, il y a juste quelque chose de spontané quand j'écris. Et en effet, c'est souvent une opposition entre parler de mes démons et à l'inverse, parler de mes volontés de puissance, tu vois, et d'émancipation. Mais je pense qu'en fait, c'est des choses qui se rejoignent complètement au final, tu vois. Et je pense que plus t'as baigné dans la merde et plus t'as envie de t'en extirper, en vrai. Je pense qu'il y a quelque chose de complètement logique dans ça.
Aujourd'hui, il y a énormément d'artistes qui construisent une partie de leur identité artistique sur les sujets liés à l'introspection. particulièrement dans le rap. Est-ce que tu observes toi aussi cette course à l'introspection en musique?
Ouais. Après, je pense que c'est des courants musicaux aussi, tu vois. C'est comme l'époque, il y a quelques années, quand il y avait tout le courant un peu emo rap avec les Lil Peep, les Temptations, etc. Moi, j'ai beaucoup écouté ça. J'ai adoré ça. Après, c'est pareil, quand ça crée un délire où d'un coup, ça devient une mode de... fuck it, c'est un peu relou. Après, c'est toujours de la perception, en vrai. La musique, ça te touche ou ça te touche pas. Si un truc qui me touche pas touche d'autres gens, mortel, force à eux, tu vois, tant mieux, en vrai. Donc, j'ai pas envie de me placer comme un arbitre sur le bon goût de qu'est-ce qui est vraiment sincère, qu'est-ce qui l'est pas. Je pense que ce serait hyper présomptueux de ma part. Moi, en tout cas, je kiffe le fait que je trouve ça quand même assez cool qu'on puisse se permettre plus qu'avant. Tu sais, on est d'une génération... moi, j'ai plus de 30 ans aujourd'hui. À l'époque où j'ai commencé à rapper, c'était tout l'inverse. Tu pouvais pas du tout parler de ces trucs-là. Tu pouvais pas du tout parler de dépression. Tu pouvais pas du tout parler de comment tu te sens, tu vois. Rapper, c'était être street, c'était être dans l'affirmation. C'était ce truc-là. Donc, il y a aussi un penchant inverse qui est forcément tout aussi chiant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe au milieu. C'est ce que ça rend possible entre ces deux extrêmes-là, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a rarement eu autant d'espace de parole. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu peux plus que jamais exister en étant toi, en ayant ton discours. Il y aura forcément des gens que ça va toucher, tu vois. Et ça, je trouve que c'est l'essentiel. Donc, faire du rap qui pleure pour faire du rap qui pleure, bien sûr que c'est relou, tu vois. Mais après, je pense que c'est comme dans tout. Il y a des milliards de trucs intéressants là-dedans. Il y aura des milliards de trucs achetés parce que ce sera de la copie de quelque chose et ce sera pas des démarches sincères. Mais il y aura aussi plein d'artistes que ça va nourrir de manière hyper intéressante.
Toi, aujourd'hui, tu es dans une démarche quand même d'avoir un rap extrêmement personnel. Yeah. Est-ce que dans les temps à venir, tu te vois ouvrir ton discours sur le monde extérieur?
En fait, c'est une question intéressante. Moi, je pense que t'es jamais plus universel que quand tu racontes quelque chose de personnel. Ça vaut ce que ça vaut. J'ai pas la prétention de révolutionner quoi que ce soit en disant ça, mais je pense que là où tu touches le plus... Moi, les morceaux, en tout cas, qui me touchent le plus, c'est souvent quand le mec cherche pas à être universel. Je trouve que c'est là qu'il l'est le plus, tu vois. J'ai même pas d'exemple précis en tête, mais... Si, tiens, quand Damso sort un Macarena à l'époque, tu vois, ce qu'il raconte dedans, c'est hyper perso, c'est presque vraiment des réflexions de ce qui se passe dans sa tête sur des trucs que t'oses pas dire à voix haute en temps normal. Et c'est ça, je crois, qui rend le morceau ultra, ultra efficace et ultra universel. C'est qu'en fait, c'est des trucs que tout le monde s'est dit et c'est spontané de fou.
Il y a une présence qui plane dans le projet. Sur le morceau Le Nom des Fleurs, c'est celle de Népal. C'est un exercice super délicat que de lui rendre hommage. Comment est-ce que tu l'as abordé?
En fait, je me suis pas spécialement posé la question de comment je voulais le faire. Disons que Népal a été omniprésent dans ma tête sur toute la création du projet. Quand j'ai commencé à rec, les premiers recs du projet se sont faits 2 jours après son décès. J'ai failli en fait annuler du coup cette session de rec, c'est quand on a fait Progrès, tout ça. Et à l'époque, j'avais parlé beaucoup avec Célas, un de mes frérots du dojo aussi, et qui m'avait dit « Non, bro, faut le faire, faut y aller, tu vois, justement. » Lui, il aurait voulu que tu le fasses. Donc, moi, la présence de Népal, l'omniprésence de Népal était incontestable sur toute la création du projet. C'est un de mes rappeurs de référence même. C'est quelqu'un qui, je pensais, quand j'écrivais mes lines, en mode « Est-ce qu'il validerait le shit ?» Donc, je me suis pas posé la question de comment je vais lui rendre hommage, juste... Il était très présent dans mes pensées sur toute la conception du projet. Et à un moment, j'ai bossé ce track, Le Nom des Fleurs, et en écrivant... Et comme je te dis, c'est toujours une corde que je tire, et à un moment, cette phrase me vient. C'est une de mes phrases préférées de tout le rap français. « Les temps changent, on connaît plus Le Nom des Fleurs ». C'est une phrase du morceau Sky Club. C'est vraiment une de mes punchlines préférées de toute l'histoire. Je la trouve folle de sens. Et en fait, ouais, je sais pas, il y avait une rime et ça pouvait venir derrière, donc je l'ai placé, tu vois. On connaît plus Le Nom des Fleurs, j'ai vu mon cœur s'arrêter 3 fois, j'avais peur. Et là, j'étais en mode, wow, ok, on est obligé de foutre un sample de cette phrase quelque part dans le track, tu vois. Et j'étais avec Jux en studio, je lui ai dit, tiens, j'aimerais... Puis pareil, je voulais pas, en plus, tu sais, je voulais pas que les gens croient que je me suis approprié la punch.
Bien sûr.
Non plus, tu vois, surtout pas. Mais c'était, voilà, enfin, je sais pas, dans tous les cas, pour moi, ça faisait sens, c'était logique de le mettre là. Il fallait qu'il soit là un moment sur le projet.
Merci à toi, Esquisse.
Je t'en prie, merci à toi, frérot.